VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 4 octobre 2017. En direct de Washington, Anne Albertson et Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, réaffirme à Niamey le soutien de son pays au G5 Sahel.
Au Cameroun, explosion d'une bombe artisanale en zone anglophone dans la nuit de lundi à mardi.
Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara, sa mère et sa sœur, inculpées pour incitation à l'insurrection.
À Las Vegas, on s'interroge toujours sur le mobile du meurtre de masse commis dimanche par un tireur embusqué.
Le président américain Donald Trump est attendu aujourd'hui à Las Vegas. Il était hier à Porto Rico, ravagé par l'ouragan Maria.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, pour l'instant le journal. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé hier à Niamey que la force du G5 Sahel sera une bonne réponse aux questions sécuritaires dans la région et aura le soutien de la France. Le point avec Morgane Guiriec.
Je suis convaincu que la mise en œuvre de cette force, qui sera déployée sur les 3 fuseaux, sera une bonne réponse aux questions sécuritaires dans le Sahel, a souligné Jean-Yves Le Drian hier à Niamey. Il a assuré que la force sera validée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 30 novembre prochain. Les dirigeants des pays du G5 ont décidé le 2 juillet à Bamako de la mise en place d'une force conjointe qui doit commencer son déploiement entre septembre et octobre. À terme, elle doit comprendre 5000 hommes, mais son financement est loin d'être bouclé. Seuls 108 millions d'euros ont été promis sur les 423 millions jugés nécessaires. La Mauritanie, un des États membres, a appelé lundi les bailleurs à mettre la main à la poche et une conférence de planification des contributions est prévue le 16 décembre prochain à Bruxelles.
Retour sur le Cameroun et la bombe artisanale qui a explosé dans la nuit de lundi à mardi, sans faire de victimes, à proximité des locaux de la police à Bamenda, dans le nord-ouest. Le point avec John Linden.
L'explosion n'a pas fait de victimes, elle s'est produite près du groupement mobile d'intervention, une unité de la police. 2 bombes artisanales ont été placées, mais une seule a explosé. L'autre a été désamorcée par la police, l'attentat n'a pas été revendiqué. Le 18 septembre, des bombes artisanales ont déjà explosé à Bamenda, puis le 22 septembre à Douala, la capitale économique. Après ces explosions, Yaoundé avait qualifié les séparatistes anglophones de terroristes. Dimanche dernier, les indépendantistes ont tenté de proclamer l'indépendance des 2 régions anglophones sur les disques contre le Cameroun. Un important dispositif policier a été déployé, 14 personnes ont été tuées, et 5 prisonniers sont morts en tentant de s'évader de la prison de Kumbu. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme alors que d'autres réclament la partition. Un scénario que rejette catégoriquement le gouvernement de Yaoundé.
Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la dernière élection contre le président Paul Kagame, a été inculpée avec sa mère et sa sœur pour incitation à l'insurrection. Le point avec Solange Nyamulisa.
Les 3 femmes ont été inculpées après avoir subi, selon les dires de Diane Rwigara, des interrogatoires au centre d'investigation de la police pendant les 3 premières semaines de septembre, puis ont été placées en garde à vue. Faustin Kouzi, porte-parole du bureau du procureur, a déclaré que l'accusation a demandé la détention provisoire d'Adeline Rwigara, sa mère, Diane Rwigara, et de sa sœur Anne Rwigara. Les 3 femmes sont poursuivies pour incitation à l'insurrection. Diane Rwigara est par ailleurs poursuivie pour contrefaçon de documents dans le cadre de sa candidature à l'élection présidentielle du mois d'août. Dans une interview fin septembre, Madame Rwigara avait dénoncé le caractère politique de ses ennuis judiciaires. La police avait confisqué ses papiers d'identité, ordinateur et téléphone. Le rejet de sa candidature par la commission électorale pour une question de procédure a été critiqué par des gouvernements occidentaux et des associations de défense des droits de l'homme.
Le procès d'un groupe de militants du mouvement de contestation dans le nord du Maroc a repris hier à la cour d'appel de Casablanca dans une ambiance houleuse. La séance a été interrompue à plusieurs reprises suite à de vifs échanges et des passes d'armes entre la défense et le vice-procureur général. À la demande de la partie civile, la Cour a finalement décidé d'ajourner l'audience au 17 octobre. Les avocats de la défense, une cinquantaine au total, ont demandé au juge d'accorder la liberté provisoire aux accusés et d'ordonner le transfert des grévistes de la faim à un hôpital pour y recevoir des soins.
Le procès d'un Érythréen soupçonné d'avoir dirigé un vaste réseau de passeurs s'est ouvert hier devant la cour d'assises de Palerme en Italie, malgré des soupçons d'erreur d'identité. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
L'homme présenté comme Medani Yedego Meredi a été arrêté en mai 2016 à Khartoum et extradé vers l'Italie. Il est soupçonné d'être le général d'un réseau de trafiquants de migrants avec des antennes en Libye, au Soudan, aux Émirats Arabes Unis et dans plusieurs pays européens. Dès l'annonce de son extradition, plusieurs personnes qui ont eu affaire au général ont déclaré ne pas le reconnaître. Des proches ont assuré que la personne arrêtée s'appelle Medani Tessamariam Béré, un réfugié érythréen de 29 ans, installé à Khartoum depuis 2014. L'hebdomadaire américain The New Yorker a affirmé qu'il a eu le vrai général au téléphone et qu'il est en prison sous une autre identité, probablement aux Émirats Arabes Unis, pour utilisation d'un faux passeport. Selon les enquêteurs, Medani Yedego Meredi a organisé, à partir de 2013, le voyage, souvent mortel de centaines de personnes, à travers le Sahara puis la Méditerranée. Son réseau est accusé d'avoir affrété le bateau qui a pris feu et coulé le 3 octobre 2013 au large de Lampedusa, faisant plus de 366 morts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le shérif de Las Vegas, Joseph Lombardo, est convaincu que les enquêteurs finiront par découvrir le mobile du pire meurtre de masse de l'histoire récente des États-Unis. Ces derniers ne comprennent toujours pas pourquoi Stephen Paddock, un homme de 64 ans, riche et sans casier judiciaire ou lien apparent avec des groupuscules politiques ou religieux, a tiré dimanche soir dans la foule qui assistait à un concert de musique country. 59 personnes, dont Paddock, ont perdu la vie et 527 autres ont été blessées. Le shérif Lombardo estime qu'il s'agit évidemment d'un massacre prémédité. La police a récupéré un total de 47 armes en trois endroits différents, ainsi que des munitions et des explosifs dans la voiture du tueur. Le président Donald Trump est attendu aujourd'hui à Las Vegas pour rencontrer des membres de la police et les secouristes, et aussi pour consoler les victimes de la tragédie.
Hier, M. Trump a visité Porto Rico. Il a minimisé les dégâts de l'ouragan Maria qui a dévasté ce territoire américain, comparé à ceux de Katrina en 2005. Le point avec Eddie Isango.
Quel est votre bilan, a demandé M. Trump, avant de poursuivre 16 morts contre des milliers. Donald Trump a comparé Maria avec Katrina, un autre ouragan du Nouveau 5 qui avait fait, les 23 août 2005, plus de 1800 morts dans la région de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Maria n'a fait que 16 morts à Porto Rico. Une grande partie d'habitants vit toujours sans électricité, sans accès à l'eau potable, ni au courant et parfois sans toit. Le président Trump a par ailleurs regretté que la gestion de la crise à Porto Rico ait coûté beaucoup d'argent, déstabilisant les budgets fédéraux. Il a critiqué un leadership médiocre des autorités locales. Donald Trump a tenté d'apaiser la polémique suite à ses attaques contre certains élus locaux. Il a serré la main à la maire de San Juan, la capitale, mais l'élu n'a pas adressé la parole après leur dure bataille à travers les réseaux sociaux.
En Espagne, le roi Felipe VI a déclaré que l'État devait assurer l'ordre constitutionnel en Catalogne, dont les dirigeants, je cite, « prétendent proclamer illégalement l'indépendance ». Alors que des centaines de milliers de Catalans manifestaient contre les violences policières de dimanche, quand le gouvernement espagnol a tenté d'empêcher un référendum d'autodétermination interdit par la justice, le roi a dénoncé hier le gouvernement régional dans un discours d'une fermeté sans précédent.
Le premier ministre palestinien Rami Hamdallah a réuni hier son gouvernement dans la bande de Gaza. C'était un nouveau pas vers la réconciliation avec le Hamas et une première depuis 2014. Ekia Badou.
Le premier ministre palestinien réunit son cabinet à Gaza pour surmonter une décennie de déchirements. Nous voulons tourner la page de la division et restituer au projet national son cap qui est la création d'un État palestinien, a déclaré Rami Hamdallah.
En 2007, le Hamas avait évincé l'autorité palestinienne de Gaza au prix d'une quasi-guerre civile avec le Fatah, un gouvernement de consensus national assiégé pour la dernière fois fin 2014, mais l'unité proclamée a fini par voler en éclats en 2015. La visite de M. Hamdallah doit préparer le terrain à un transfert progressif de responsabilité du Hamas à l'autorité palestinienne. Le Hamas a cédé sous la pression du grand voisin égyptien et un sévère tour de vis de Mahmoud Abbas qui a refusé de payer l'électricité fournie par Israël à Gaza. Réagissant à ce rapprochement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé au Hamas de reconnaître l'État d'Israël, de démanteler sa branche armée et rompre avec l'Iran. Le Hamas, qui dispose d'une force armée d'environ 25 000 hommes, a aussitôt rejeté ces conditions.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé les forces de la coalition dirigée par les États-Unis de commettre des provocations sanglantes contre les troupes russes en Syrie. Dans une interview publiée mercredi, le ministre russe semblait se référer aux forces démocratiques syriennes, FDS. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
La Banque africaine de développement doit décider ce mercredi si elle va débloquer 296 millions de dollars en faveur de Air Côte d'Ivoire pour l'achat de 5 nouveaux Airbus A320. Des compagnies aériennes ont déjà obtenu de tels prêts, mais depuis quelque temps, des membres du conseil d'administration de la BAD se demandent si ce type de transaction remplit la vocation de la banque. Air Côte d'Ivoire, qui veut devenir la première compagnie aérienne d'Afrique de l'Ouest et faire de Abidjan un hub régional, a commandé ses avions l'année dernière. L'un des 5 lui a été livré en juillet, ce qui porte sa flotte totale à 10 appareils. La Tanzanie a confié la deuxième phase d'un gigantesque projet ferroviaire au groupe turc Yapı Merkezi, qui avait déjà collaboré avec la compagnie portugaise Mota-Engil sur la première phase, dont le coût s'élevait à plus d'1 milliard de dollars. Le nouveau contrat de réalisation de ces chemins de fer est maintenant évalué à 1,9 milliard de dollars, selon l'agence Ecofin. Le chemin de fer, long de 400 km, devra relier la Tanzanie au Burundi et au Rwanda et fait partie d'un méga projet de ligne ferroviaire d'une longueur de 2561 km. Le produit intérieur brut de la Guinée-Bissau devrait croître de 5% en 2018, en ligne avec son PIB des 2 années précédentes. Ceci est soutenu par une augmentation des prix des noix de cajou, d'après le Fonds monétaire international.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nouveau forfait pour la RDC avant d'affronter la Libye.
Déjà privé de Jordan Ikoko et de Jacques Magoma, les Léopards vont devoir se passer de Merveille Bopé. Sorti sur blessure dimanche dernier lors de la rencontre face à Anderlecht, le milieu de terrain du Standard de Liège a passé plusieurs examens médicaux. Verdict, plusieurs problèmes au genou, dont une rupture du ligament croisé antérieur, ce qui va nécessiter une intervention chirurgicale. Son indisponibilité n'est pas encore évalué pour cet ancien joueur du tout-puissant Mazembe.
La liste des 23 joueurs algériens retenus pour affronter le Cameroun publiée.
Oui, l'Algérie, qui est déjà éliminée de la course au Mondial 2018 en Russie, se présentera finalement au Cameroun sans tête d'affiche habituelle, ni Riyad Mahrez, ni Islam Slimani, écarté, ou encore Yassim Brahimi, qui a déclaré forfait. Eh bien, hier, la fédération algérienne a annoncé le nouveau forfait, celui de Faouzi Ghoulam, qui renonce à rejoindre la sélection en raison d'un problème de santé. Lucas Alcaraz, le sélectionneur, a décidé d'appeler en renfort Ismaël Benacer, l'international évoluant à Empoli.
Il y a peu de suspense dans ce groupe B.
Oui, car le Nigeria est sur le point de retrouver la Coupe du Monde. Les Super Eagles ne sont qu'à une victoire de se qualifier. Et le duel contre la Zambie à Ouyo va sentir la poudre. Les Chipolopolo sont à 3 points des Nigérians. Et une victoire zambienne relancerait complètement ce groupe qui a été fatal aux mondialistes. Bye bye Algériens et Camerounais. Éliminés, ces deux équipes s'affrontent pour un match sans enjeu ce week-end à Yaoundé.
La Lazio sanctionnée pour les chants racistes de ses supporters.
La Lazio de Rome va devoir fermer une de ses tribunes les plus ardentes, le Virage Nord, pour 2 matchs. Le club est à nouveau sanctionné après des chants racistes de supporters lors du match contre Sassuolo 6-1. C'était dimanche la victoire. Ces chants étaient dirigés contre deux joueurs de Sassuolo, Alfred Duncan et Claude Adjapong. Le club romain avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, c'était en avril dernier. La tribune restera donc fermée pour les matchs du 22 octobre contre Cagliari et également la rencontre face à l'Udinese le 5 novembre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Mobutu Sese Seko, l'ancien dirigeant de ce qui était à l'époque le Zaïre, est mort il y a 20 ans au Maroc. Aujourd'hui, rien à Kinshasa ne rappelle à première vue l'héritage de celui qui a régné d'une main de fer sur le pays pendant 37 ans. Et pourtant, il y a un groupe de mobutistes qui tentent de ressusciter son parti tout en réclamant sa réhabilitation. Reportage Abdourahman Dia.
Aucune rue ne porte son nom et il n'y a aucune statue pour l'honorer. Mobutu Sese Seko, mort loin de chez lui, après avoir fui l'arrivée des troupes de Laurent Désiré Kabila, a encore des partisans à Kinshasa. Lando Katombongo est le cousin et ex-secrétaire privé de Mobutu.
Je crois après tout ce que le président a fait dans ce pays, ça mérite quand même une réhabilitation. Les gens, peut-être qu'ils ont l'esprit obtus pour ne pas se souvenir du président Mobutu. Si on ne reconnaît pas ce qu'il avait fait, mais il y a un pan quand même de la société congolaise maintenant, se reconnaître en lui. C'est quand même le fils de ce pays, c'était pas un étranger. Il a lutté pour l'unité de ce pays. On doit quand même lui reconnaître. L'écriture de l'histoire de ce pays doit rester intacte. Vous voyez à la télé par exemple, quand tu parles de l'histoire de ce pays, on met certaines photos, sauf la photo de Mobutu, comme si lui, ce monsieur-là, ne faisait pas l'histoire de ce pays.
Et parmi ceux qui parlent avec nostalgie de l'époque Mobutu, il y a son fils adoptif, Alain Dilongu Mobutu.
Je ne sais pas si, lorsque moi aujourd'hui ou peut-être d'autres se présentent sur la nationalité congolaise, je ne sais pas si ça a la même connotation, si ça a encore la même valeur. Regardez, des pays où nous allions avec fierté, aujourd'hui nous rejettent. Des pays que nous contrôlions, dont nous avions une grande ascendance aujourd'hui, nous dominent. Je me pose la question.
Et pour lui, réclamer l'héritage de Mobutu passe d'abord par la relance du MPR, l'ancien parti unique.
Nous avons pris nos responsabilités pour réhabiliter ce parti-là et réanimer la flamme du MPR tel que notre papa, tel que le fondateur de ce parti l'avait animé pendant 32 ans.
Et la question du retour au pays de la dépouille de l'ancien chef d'État est aussi dans les esprits. Xavier Lukelo Longo était un de ses plus proches collaborateurs.
Les morts aujourd'hui, même si ton frère a un problème, on nous dit de pardonner. C'est le pardon d'abord. Quand il n'y a pas le pardon, on ne peut pas rien construire. Et les chefs, mon papa, il était pour le pardon. Il a beaucoup aimé ce pays et il a fait beaucoup pour ce pays. Et il ne voyait pas mon Congo, mon Luba, mon Ngala. D'ailleurs, je vous dis, même nous qui les servaient, il y avait des Katangais, il y avait des Kassaïens. 90% des travailleurs, c'était Bandundu, Bakongo.
Abdourahman Dia, de retour de Kinshasa pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En République centrafricaine, les enseignants ont tendance à privilégier les écoles privées au détriment des écoles de l'État, une situation qui commence à inquiéter les élèves et leurs parents. Pour sa part, le ministère de l'Éducation nationale assure que des dispositions sont en cours pour y faire face. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Deux semaines après le lancement officiel de la rentrée scolaire 2017-2018, les cours n'ont pas encore démarré dans la quasi-totalité des écoles publiques. Dans les établissements scolaires privés, par contre, les enseignants dispensent déjà les cours. Selon les élèves, certains enseignants ne respectent pas le planning dans les structures scolaires étatiques au profit des écoles privées.
Vous voyez, sur nos emplois du temps, les professeurs ont souvent 30 heures de cours, mais on arrive à faire seulement 3 séances de cours et c'est fini pour l'année. Donc vous voyez, c'est trop difficile. difficile.
Les enseignants ne dispensent pas bien leurs cours. Ils ne suivent pas leur programme, les emplois du temps aussi. Ça joue sur nous. On n'arrive même pas à comprendre les cours.
Même si l'État prend du retard à les payer, à un moment, il va toutefois leur donner leur argent. Donc moi, je vois que ça, c'est un faux problème et ça impacte sur l'éducation de notre pays parce que la plupart des parents n'ont pas assez d'argent pour payer les écoles privées.
Ce comportement observé aussi bien à l'université que dans les écoles secondaires est décrié par Africain Kazangba, président de la Fédération des associations des parents d'élèves.
Oui, c'est un souci également pour les parents. Nous avons cette réaction vive et là, c'est un peu un problème grave que nous avons toujours déploré. Ça joue sur la baisse de niveau parce qu'il y a un programme qui est établi par le gouvernement et mis à la disposition de ces fonctionnaires-là pour le travail de l'éducation nationale. Et si ça déséquilibre comme ça, ça prouve que vraiment on n'est pas conscient de notre profession puisque nous avons cette vocation d'enseigner et quelque part, il y a un manquement grave pour les parents d'élèves qui sommes nous et puis également pour le gouvernement qui est l'État, qui est l'employeur.
Selon Innocent Paré, secrétaire général du collectif des professeurs vacataires de Centrafrique, les enseignants se livrent à cette pratique pour joindre les deux bouts.
Dire que les gens abandonnent le public pour aller au privé, peut-être sur le plan pécunier, de côté argent, peut-être sur le privé, je paye bien. Donc je pense que c'est vraiment logique que les enseignants interviennent dans le monde privé pour leur permettre aux jeunes de debout et pour apporter leur contribution pédagogique en vue du développement de la jeunesse africaine.
Au cours d'une réunion tenue le 30 septembre à Bangui, l'association des professeurs de français a appelé à une prise de conscience. Anatole Aimé Blaise Bangalène, président de l'association.
Là, c'est un problème de conscience personnelle. Lorsque l'État recrute ses enseignants, il les paie, et ce jusqu'à la retraite. Et je sais que nous devons beaucoup plus à l'État qui nous paie. Mais maintenant, délaisser les établissements publics au profit de l'établissement privé, je pense que là, ce n'est pas bien parce que qu'est-ce que nous allons faire des enfants des pauvres?
Pour cette nouvelle année scolaire, le gouvernement prévient qu'il y aurait un traitement différent pour les enseignants. Selon le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, il ne faudrait pas continuer d'assister passivement au refus des enseignants de rester à leur poste. Fuman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
À Madagascar, la peste a fait son retour dans la capitale Antananarive. L'épidémie a déjà fait 6 morts et sème la panique parmi la population qui se rue vers les pharmacies pour trouver des antibiotiques. La grande île est habituée à la peste qui réapparaît presque chaque année de septembre à avril. Solange Niamoulissa a joint Gaël Borgia, journaliste à Antananarive.
Le dernier bilan qui a été donné par le ministre de la Santé publique est donc 28 décès et en tout, il y a 150 cas de peste à travers l'île.
Est-ce que les gens à Tana ont accès aux médicaments et aux masques de protection?
La représentante de l'OMS à Madagascar, et elle a bien expliqué que la peste se soigne et que le traitement est gratuit. Donc il ne faut pas faire d'automédication. Dès qu'on a les symptômes de la maladie, il faut tout de suite consulter et on peut être soigné gratuitement dans les hôpitaux. Concernant les masques, ils sont en libre service dans les pharmacies, mais le ministère de la Santé explique que ce n'est pas très utile. Les masques doivent être utilisés par les familles qui ont un membre malade ou personnel de santé dans les hôpitaux qui sont en contact avec les malades. Eux doivent porter ces cache-bouches, en fait, ces masques. Mais pour la population en général, il n'en a pas besoin. Les consignes, en fait, c'est d'éviter les lieux confinés où il y a beaucoup de monde, par exemple les bus ou les marchés couverts.
Quelle est l'atmosphère global à Madagascar, spécialement à Tana?
La vie continue, les gens prennent le bus, la rentrée scolaire a eu lieu, donc les enfants vont à l'école, mais il y a quand même un vent de panique, donc il y a une psychose qui s'est installée dans la capitale, les gens essaient de ne pas trop serrer les mains, on essaie de ne pas trop parler trop près les uns des autres, donc il y a une forme de psychose qui est due aux 5 morts qui ont été comptés ces quelques derniers jours, mais la vie continue, à part les files d'attente devant les pharmacies, rien n'a vraiment changé.
Pourquoi la peste est revenue à Madagascar?
Alors, l'OMS a expliqué que la peste existe dans plusieurs pays du monde, notamment en RDC. Madagascar, en fait, connaît une résurgence de la maladie chaque année à la même période. Fin août, début septembre, c'est le début de la saison pesteuse et ça dure jusqu'en mars de l'année suivante. Donc là, on a encore quelques mois devant nous. Il y a plusieurs hypothèses à cette résurgence de la peste chaque année. D'abord, il y a les feux de brousse qui ont souvent lieu en juillet-août et qui, en fait, font fuir les rats de la forêt et ces rats arrivent jusque dans les maisons. Ensuite, il y a les retournements des morts, c'est cette coutume ancestrale d'exhumation des cadavres qui peut faire ressortir le microbe. Il y a parfois des morts de peste que les familles déterrent, des morts qui contiennent encore des bactéries et ça peut en fait contaminer certaines personnes.
Gaël Borgia, journaliste à Antananarivo.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, le mystère pèse toujours sur le mobile du crime de masse commis par Stephen Paddock, l'auteur de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire récente des États-Unis. Ce comptable et gérant d'appartements à la retraite était un habitué des hôtels casinos où il pariait des sommes très importantes. Pour les enquêteurs, il était un loup solitaire. Le port d'armes est un droit garanti par le deuxième amendement à la Constitution américaine. Comment jouir de ce droit tout en évitant des violences? Eric Manirakiza a joint un professeur de sciences politiques à l'Université de Floride, Richard S. Conley.
Il ne se présentait pas avec des problèmes, il n'avait pas de problème avec la police, il n'était pas criminel, pas connu aux autorités locales, donc c'est impossible de prédire un événement comme ça. Et c'est bizarre parce que il avait de l'argent, il était millionnaire, il avait un avion, une belle maison à quelques heures au nord de Las Vegas, il aimait les casinos, il avait une petite amie. Elle est aux Philippines en ce moment. Même ses voisins qu'on a interviewés ont indiqué qu'ils vivaient comme tout le monde. Donc c'est ça qui est tellement bizarre.
Professeur, à la genèse de ce droit de port d'armes, c'était le droit de se défendre. Mais ce qu'on voit, l'on se défend contre qui quand on tue des innocents?
C'est ça la question. Quel type d'armes doit-on avoir accès? Par exemple, moi, quand je vais en Arizona, notre petite maison est très isolée. La ville la plus proche, c'est à une centaine de kilomètres. On a des serpents, on a des coyotes, on a des animaux sauvages qui sont là. Ah, bien sûr, il faut se défendre. Ce n'est pas contre les voisins, mais plutôt les animaux sauvages. Ceux qui aiment chasser, bien sûr, on n'a pas besoin des armes à feu automatiques. Peut-être c'est ça qu'on doit discuter dans l'avenir.
Le tueur de Las Vegas détenait en tout cas toute une cargaison d'armes dans sa chambre d'hôtel, chez lui à la maison.
On se pose la question si les hôtels doivent essayer de plus surveiller les gens. Ce n'est pas anormal d'avoir des visiteurs qui restent dans un hôtel pendant une semaine ou deux semaines à Las Vegas. C'est un endroit où beaucoup d'Américains fréquentent. Mais votre question est très bonne. Personne n'a remarqué qu'il devait faire beaucoup d'escales à sa voiture et puis remonter à sa chambre. Comment est-ce que c'est possible que personne n'a rien vu pendant toute cette histoire-là? Un autre problème, c'est que comment balancer les droits privés et le droit de l'hôtel, par exemple, de surveiller ceux qui fréquentent l'hôtel? Ça, c'est aussi très difficile parce que ce sont des établissements, des hôtels privés. On n'a pas le droit de surveiller les gens d'une même façon comme la police où il faut aller à un juge pour un mandat. Donc, quelle est la responsabilité des hôteliers dans cette affaire? C'est une question constitutionnelle aussi qui est très difficile.
C'était le professeur Richard S. Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation au Cameroun. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Elle exige le retour au fédéralisme sans obtenir satisfaction du gouvernement. Faut-il proclamer l'indépendance des régions anglophones? Comment réconcilier les différentes régions? Comment sortir de cette crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est jeudi à 19h en temps universel.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abderrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.